La nouvelle application France Inter.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Rendez-vous cette semaine dans Live Me Do au studio 105 pour une carte blanche à Philippe Catherine. Ses invités sont Ricky Hollywood et sa pop kitsch.
On est parti dans le passé, acheter des synthés.
Et Antoine, qui s'adonne à la pop synthétique.
Amour analogique.
Live Me Do.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous demain à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France. Ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter.
La voix est libre.
15h05 dans une vingtaine de secondes sur Inter. L'heure de retrouver Daniel Mermet là-bas si j'y suis.
Capitalisme social, tendre viol, douce torture, nazi sympathique, raciste tolérant, capitalisme social.
Bonjour, ici Gérard. Hier, j'ai écouté une partie des trois quarts de l'émission sur la microfinance à Ouarzazate. Je suis un peu troublé parce que ça donne une image désastreuse du microcrédit. Tous les organismes de microfinance ne ressemblent pas à ceux que vous avez cités hier. Moi, je suis bénévole pour une ONG qui s'appelle la CIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement, et qui fait du travail pas du tout comme celui que vous avez cité, c'est-à-dire qu'elle commence à former les gens avant de les laisser partir dans la nature pour vendre du microcrédit. Ce serait bien de pouvoir contacter mon organisme, je le fais en tant que bénévole, qui s'appelle la CIDI, Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement.
Francine Chamoin, chargée d'accompagnement à l'ADI, Association pour le Développement ou les Droits à l'Initiative Économique. Je suis en train d'écouter sur France Inter votre émission. On ne peut pas faire une heure ou plus d'émissions sur des extrêmes. Quand je sais que je fais ça régulièrement, d'aider nos concitoyens à avoir accès au microcrédit encadré et pas à des taux prohibitifs pour créer son propre emploi, et que je vois tous les jours les dossiers et les personnes qui réussissent, vous discréditez complètement par cette émission débridée, hors sujet. Ne laissez pas croire que ces associations qui se passent dans le Maghreb, en Inde, en Afrique et ailleurs sont légion à leur actuelle. L'ADI est agréé par les fonds sociaux européens. Nous sommes audités tout le temps et sommes sérieux et aidons 70% en gros de nos concitoyens à sortir du chômage et avoir la tête haute. Merci, au revoir.
Salut Daniel. Bon voilà, j'ai été très ému en entendant l'émission d'aujourd'hui sur le microcrédit, très surpris aussi parce que je croyais que c'était un truc bien, tu vois, et puis tu nous as montré que même lorsqu'il y avait quelque chose de bien, ben souvent les crapules s'en emparaient pour rendre les autres encore plus malheureux. Chez nous à Nice, on dit, à propos des poissons, on dit chapant les pitchers, les gros avaient un loutin, ce qui veut dire attrapons les petits, les gros nous avons le temps. Bon, bien, je te remercie et puis à plus. Ciao, ciao.
Merci pour vos messages, cher SAMG. Merci aussi pour vos critiques. Alors, on n'est pas en France, on n'est pas avec l'ADI. L'ADI, on a fait un sujet sur cette compagnie des crédits, société de crédit. Il y a déjà quelques années, il y a à peu près 200 millions de bénéficiaires du microcrédit à travers le monde. Il faut rappeler que plus de 80% des bénéficiaires, entre guillemets, sont en Asie. Et effectivement, il y a aussi du microcrédit en France, dont les résultats et les effets sont discutés et sont discutables. Mais le sujet reste ouvert. Là, de toute façon, effectivement, nous sommes dans ces régions lointaines, pas si lointaines que ça, celle-ci au Maroc. C'est difficile de dire que c'est un cas marginal, puisque dans la région de Ouarzazate, où nous nous trouvons aujourd'hui, 4600 personnes, quand même, dans cette région de Ouarzazate, refusent de rembourser les prêts des organismes de microcrédit et même réclame l'audit de ces institutions et leur convocation devant les tribunaux. Pourquoi ? Parce que, alors que, on vient de l'entendre, le microcrédit c'était la solution, le microcrédit devait émanciper les plus pauvres en leur procurant des sommes modiques afin qu'ils puissent développer une activité. On se souvient de cette phrase fameuse « utiliser le capitalisme pour faire du bien ». C'est ce que disait le banquier aux pieds nus. Aujourd'hui, le bilan, effectivement, s'il y a quelques succès, et même quelques miracles, tout cela est bien rare sur la quantité, et il y a beaucoup de désastres dus à des taux d'intérêt prohibitifs, on l'a vu hier, vu à des méthodes à la fois d'inscription sur ces crédits et puis de recouvrement extrêmement violentes, quasiment mafieuses, qui entraînent, on l'a vu en Inde, des vagues de suicides de femmes. Ça a quand même remué le monde du microcrédit. Il ne faut pas sous-estimer ces informations. Elles sont là, ces femmes se sont bel et bien suicidées. Et d'ailleurs, le microcrédit à travers le monde baisse plutôt en quantité de bénéficiaires. Je mets toujours ce mot entre guillemets. Alors, derrière l'aura de sainteté du microcrédit, on l'a entendu là, il y a une espèce de bénévolat généreux, etc. Eh bien, au moins pour ce qui concerne le Maroc, au moins pour ce qui concerne la région d'Ouarzazate, eh bien, ce sont les prêteurs qui profitent. Et on va voir même que c'est l'inverse à Ouarzazate. C'est les organismes de prêt qui poursuivent les victimes devant la justice. C'est quand même poussé le bouchon un peu loin. C'est d'ailleurs pour cela qu'on est allé à Ouarzazate, que Anna Elverzo, pour là-bas si j'y suis, s'est rendue à Ouarzazate. Et c'est ce que nous allons raconter aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Dans la série Bling Bling de l'humanité de ce jour, il y a ceci. Pour son premier stage à l'Élysée, le jeune énarque n'oubliera pas sa serviette de bureau en vaut grand dauphin, double compartiment, Dolce et Gabbana, 1350 euros, remboursés aux frais de l'État. Marie-Caroline de Gascogne.
Gel des retraites, gel des points d'indice, gel des prestations sociales. Normal qu'on soit pas chaud pour voter socialiste. C'était Serge de Dieulfi.
Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour les personnes qui sont au RSA puis en ASS et qui gagnent 500 euros par mois? Que comptez-vous faire? Déjà, la dernière fois, j'ai même pas voté, alors faudrait peut-être... Que comptez-vous faire quand même? 500 euros par mois. Point final.
Salut Daniel, merci pour cette émission sur ces femmes merveilleuses et magnifiques. Elles sont tout à fait le profil de vrais révolutionnaires. On ferait bien d'en prendre un petit peu l'exemple et je dirais même les imiter. Elles n'ont rien, on a quasiment tout, on ne sait même pas se révolter. Et puis aussi, ça serait une bonne leçon pour tous ces hommes politiques qui n'ont pas de solution pour nous. Révoltons-nous, révoltons-nous. Merci Daniel, c'était super. C'était Mauricette du 14e, il y a longtemps que je t'avais pas appelé. Salut.
Payé ou pas? J'ai pas d'argent. Vous payez ou je prends vos affaires, c'est tout.
On risque d'aller au prison maintenant. L'Institut de microcrédit a porté plainte contre
les 5 associations.
Il y a certainement quelques milliers de success stories. En attendant les solutions des grands soirs, il faut bien aider les gens à trouver des solutions pragmatiques à leurs problèmes. Et à sa petite échelle, le microcrédit, à mon avis, y compris.
Ah, mais c'est un peu top, il sort et il tape le... Il tape l'agent du microcrédit. Il le fout dehors, l'agent du microcrédit.
Dégage, dégage.
Crédit retiré, on prend les sorts.
Tout est à crédit, j'ai rien payé.
C'est à crédit.
On a signé un contrat.
Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le contrat? Vous l'avez lu?
Non, j'ai pas lu. Moi, la seule chose qui m'intéresse à l'époque, c'est le crédit.
Et voilà.
Et ce n'est qu'une fois qu'ils nous ont égorgés, nous ont mis le couteau sur la gorge, d'amène à tous les microcrédits qu'enfin on a compris.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Anaël Verzo. Comment se faire des perles avec la sueur des pauvres?
Flight number 2, arriving from New York.
On vient d'arriver à Ouarzazate. Et on est avec Swad, qui va traduire.
Tu sais, on pourrait pas bouger un peu de là? On est en face du commissariat. Ils ont déjà repéré que tu étais en train d'enregistrer. Il y a quelques gens qui nous surveillent.
Où ça?
Ah bah, tu les as pas vus, mais eux t'ont repéré. Notamment le monsieur.
On prend le taxi, bah, c'est un petit taxi jaune.
Salam.
On va aller chez Amina. Amina Mourad.
Une des leaders avec Nasser. D'une association qui s'est constituée pour lutter contre le microcrédit au Maroc.
C'est ça. Alors là, c'est un quartier, c'est plus le centre, mais on est dans les nouveaux quartiers économiques.
Ici, c'est la terre rouge. Hein.
Tout est rouge. C'est comme toutes les régions du sud, on construisait initialement avec la terre. Il n'y avait pas de béton armé. Mais actuellement, on construit en béton armé et on utilise la couleur de la terre. Donc c'est terminé la terre. Voilà.
On arrive ?
On arrive.
On est arrivé. Okay. Voilà. Attends, je vais payer.
Bah oui, au départ, c'est convaincant. C'est convaincant, on se dit, voyons, ces milliards de pauvres dans le monde n'intéressent pas les banques. Les banques ne prêtent qu'aux riches. Donc les pauvres, comment ils font? S'ils veulent se lancer, s'ils veulent un minimum pour démarrer la première marche, il faut leur prêter un petit quelque chose. Alors on va leur prêter le petit quelque chose. Ainsi naquit le microcrédit il y a une trentaine d'années. Vous connaissez cette histoire. Et voilà, moi j'ai besoin de m'acheter une machine à coudre, j'ai besoin de m'acheter un mulet pour mon champ, j'ai besoin de ceci, de cela. Voilà, on vous prête cet argent et puis vous le remboursez petit à petit au gré de l'avancée de votre petite entreprise. Formidable. Bien sûr que c'est formidable. Mais alors, quel taux? C'est le taux, il est évidemment un peu élevé, parce que si les banques prêtent aux riches et pas aux pauvres, c'est que ça coûte très cher d'entretenir des petits comptes, des petites miettes comme ça. Donc, effectivement, les taux sont élevés. Mais alors là, les taux sont très, 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 très élevés. Bon, et puis il y a la façon de placer ces crédits, de convaincre, on le voit là à Ouarzazate par exemple, la façon de convaincre, allez vas-y Jamila, signe ici et tu vas avoir des sous. Bien sûr que Jamila signe, elle sait pas forcément écrire, elle sait pas forcément, elle a pas eu le temps de lire ce qu'on lui a mis sous le nez. Et voilà, il y a des gens qui placent des crédits, ils sont placés, ils sont payés à chaque fois qu'ils établissent un contrat. Il y a cette pression là qui a opéré, et pas seulement dans la région de Ouarzazate, bien évidemment. Je le disais, plus de 80% du microcrédit se réalise en Asie. Et puis ensuite, il y a cette difficulté, évidemment, à rembourser, parce qu'une partie de ces microcrédits vont à la consommation et non pas à l'investissement dans l'entreprise. Alors, la difficulté de rembourser. Et là, ça rigole plus du tout. Le recouvrement se fait de façon extrêmement coercitive, voire violente, voire très, très violente, parce qu'il faut que l'argent rentre. Et ça rentre, mais dans quelle poche? qui investit? Eh bien, on vérifie une fois de plus, on l'a cité plusieurs fois, mais je vais le faire à nouveau, la fameuse phrase d'Alphonse Allais, il faut prendre l'argent là où il est. Chez les pauvres, on vient de le dire à nouveau, les pauvres n'ont pas beaucoup, mais ils sont très nombreux. Et beaucoup par peu, ça fait quand même beaucoup de chez beaucoup à des taux très élevés. Et c'est ainsi que les bailleurs de fonds, du microcrédit, se font beaucoup d'argent. Pas tous, pas partout, je le souligne, on le dit et redit. Il y a des histoires qui marchent bien, il y a des success stories, indéniablement, mais de façon générale, ça n'est pas la solution, ça ne peut pas remplacer de véritables politiques de développement, ça ne peut pas remplacer des politiques à l'échelle d'un pays qui entend lutter contre les inégalités et contre la pauvreté. Alors on dit, ah oui, mais alors là, vous voulez du grand soir, vous voulez des grands horizons, etc. Qu'est-ce qu'on fait là concrètement dans l'immédiat? Eh bien, on va voir que ces femmes ont des idées pour faire des choses dans l'immédiat, en attendant, bien sûr, le grand soir. C'est jusqu'à 15h, 16h ou presque, c'est là-bas si j'y suis. Comment se faire des perles avec la sueur des pauvres?
Même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, les pauvres sont très nombreux. Donc multiplions par les 2 milliards de pauvres qu'il y a sur la planète, ça finit par faire des sommes considérables. يانو سكيزوفران قاريو ماشي فنان من يانو بريزيدان ومقازو جدراري ونديري جعدار مياق قفرا واسماوي أم ولد واسمو مدني حرشهم الإرهابي اللي زلق معالي روبونتي الإرهابي دارها بيه وهو دارها بنا هو يطرش ويروش وانت كأمس وميز هو يجوز ويعبز وانت ركز وفرز شحال نرف بالشدة يشكل شعره في السما مخربل يشرب يسهر يخطب عمر طويل لكن حبل بين الناس والهكار ما تشبتيخ بين الناس والهكار بين الناس والهكار ما تشبتيخ دار الكسكاوس وعمر البلار سحام ورد بالأقلام كتبت تاريخ
Entrez, je vous appelle.
Merci.
C'est mon salon. Un salon marocain traditionnel.
Ouais, c'est une grande pièce.
Oui.
Amina, vous travaillez?
Mon travail, c'est le commerce. Je fais le commerce.
Le commerce de quoi?
Le commerce. Avant, je fais l'électroménagère, mais j'avais l'autre fois deux boutiques. Maintenant, je n'ai qu'une. J'ai fait un magasin, il a fait faillite.
C'est-à-dire, vous étiez vendeuse ou
oui,
chef
vendeuse.
De...
Non, chef et vendeuse aussi.
Les
chef
deux.
Et vendeuse, les deux. Depuis 2005. Au début, ça a bien marché. J'arrive même parfois à gagner 30 000 dirhams par mois.
3 000 euros
par mois.
3 000 euros par mois.
Oui, à peu près. C'est là où commence mon histoire avec les microcrédits. Pourquoi? Parce que l'associé qui était avec moi, donc il a décidé d'acheter un appartement. Il n'a pas les moyens. Il m'a demandé si on peut dissoudre la société parce qu'il veut son argent.
Il a retiré ses parts.
Voilà.
Alors, vous vous êtes retrouvée toute seule?
Je me suis retrouvée toute seule. Je n'ai pas de solution que le microcrédit. Pour la banque, je ne peux pas avoir un crédit parce que je n'ai pas des garanties.
Je
n'ai même pas un compte bancaire. Donc, le seul moyen que j'avais à l'époque, c'est d'aller avoir un crédit dans les microcrédits. Un crédit solidaire.
C'est comme ça que ça s'appelle, un crédit solidaire?
Solidaire, oui.
Et vous avez signé?
On a signé un contrat.
Qu'est-ce qu'il y avait écrit sur le contrat? Vous l'avez lu?
Non, je n'ai pas lu. Moi, la seule chose qui m'intéresse à l'époque, c'est le crédit.
Je savais lire, mais ce contrat-là, il est illisible. Il faut avoir une loupe ou quelque chose comme ça pour lire.
Vous êtes reparti avec combien ?
30 000 dirhams, 3 000 euros.
Et donc, sachant votre situation, c'est-à-dire le crédit à rembourser, le premier crédit de les 30 000
oui,
dirhams,
oui.
Ils vous ont fait un autre crédit.
Un autre crédit.
De 80 000 dirhams.
Oui, un autre crédit pour rembourser les crédits que j'ai pris.
Comment vous avez fait
ça pour... C'est le deuxième crédit.
Après, vous en avez fait un autre ?
J'ai encore fait un autre de 60 000.
Toujours dans la même structure ?
Toujours dans la même structure. Et comme ça, je me suis trouvée dans un vrai pétrin parce que je n'ai jamais sorti de ce cercle-là. Et jusqu'à maintenant, j'ai 75 000 de crédit.
Et c'était des taux d'intérêt qui s'élevaient à combien ?
Oui, pour
3%,
moi, 45%.
45%.
Oui. Le premier 45%, le deuxième 45%, le troisième 45%. Maintenant, on parle de mon cas. Mais il y a des cas des dossiers de femmes qu'on a, ils montent jusqu'à 300%. Donc, j'ai essayé d'inscrire des femmes qui ont des problèmes comme moi. J'ai trouvé beaucoup de femmes.
Combien ?
4600 personnes pendant 3 mois que j'inscris.
4500 personnes ?
Personnes, j'ai inscrit le nom de ces femmes-là, leur numéro de téléphone, leur situation familiale, pour rester solidaire et tout.
Et là, maintenant, vous êtes 15 000 ?
À peu près.
15 000 dans tout le Maroc ?
Dans tout le Maroc.
Tu veux, ce qui se passe à OAZZ, maintenant, c'est ce qu'on a. On peut parler des retombées de la crise.
Oui.
Ça s'est répercuté sur le tourisme, parce qu'à partir des années 90, fin 80, il y a eu des grands projets touristiques en disant voilà, les pays du Nord sont intéressés par OAZZ parce qu'elle leur offre des paysages fantastiques, le soleil toute l'année, l'arrière-pays, les balades. Alors, on a développé des tourismes avec des hôtels de luxe, essentiellement. C'est un tourisme qui a marché jusqu'au moment où il y a eu la crise chez vous. Et alors, ils ont commencé à baisser les prix dans les hôtels. Et ces hôtels-là, en fait, les clients qui venaient, ils étaient de plus en plus pauvres. Mmh. Et toutes les femmes qui ont pu travailler dans l'hôtellerie pendant ces dernières années, elles ont été licenciées. Parce qu'il y a eu une remise en question des conditions de travail, du droit du travail. Il y a eu en même temps la période faste du syndicalisme, parce que c'est une des régions où le taux de syndicalisation était le plus important. Et puis quand les hôtels ont commencé à avoir la crise, eh ben, ils ont commencé à licencier. La ville de OAZZ, par les retombées de la crise économique, est rentrée en fait dans un circuit de l'engrenage de la dette qui en fait a touché de bas en haut et c'était un peu comme le système d'escalier, ça serait échelonné.
Alors 15 000 personnes, 15 000 cas à travers le Maroc, dont 4 500 pour ce qui concerne la région de OAZZ, c'est quand même pas mal. 4 500, dont une majorité de femmes, qui se sont, vous avez compris, organisées dans l'Association de protection populaire pour le développement social. Et elles mènent un combat contre les organismes de microcrédit pour abus de confiance et conditions de crédit insoutenables, ce qui a entraîné leur surendettement et une paupérisation aggravée. Alors là, on est avec Amina Morad, il y a aussi Benassa Smaïni, et eux deux sont poursuivis, c'est assez cocasse, ils sont poursuivis par les organismes de crédit. Pourquoi ? Parce qu'ils se battent, ils luttent, ils manifestent, et au cours des manifestations, les organismes de crédit ont considéré qu'ils étaient insultés, alors ils les ont poursuivis. Le tribunal n'a pas marché dans l'affaire, relax pour ceux qui étaient poursuivis, mais une des sociétés de crédit, un des organismes de crédit qui s'appelle INMA, INMAA, a maintenu sa plainte en appel, et les deux, Amina et Benasser, ont été bel et bien condamnés en appel à des amendes lourdes et des peines de prison. Eh oui, on est au Maroc, peine de prison. Bon, actuellement, ils attendent la cassation, ils espèrent que les choses vont tourner, ça va s'arranger, ça va s'améliorer en cassation, mais rien n'est sûr. Voilà pourquoi ils luttent, voilà pourquoi ils ont entrepris cette caravane, voilà pourquoi ils combattent les abus du microcrédit dans leur région.
Vous êtes toujours maquillée?
Oui, toujours, toujours. J'insiste, je dis, elles m'ont enlevé tout. Mais j'ai droit à dire que je suis là, je suis une femme, que je suis une féministe. J'ai tout mon féminisme. Tout de même, j'ai laissé quelque chose pour moi.
Parce que vous êtes en procès?
Oui, en procès. Je suis maintenant condamnée d'un an de prison ferme.
L'Institut de microcrédit a porté plainte contre
vous. Les cinq associations.
Et vous en accusez de quoi?
L'escroquerie, menace, l'insulte. On risque d'aller en prison maintenant.
Vous et Nasser?
Moi et Nasser.
Nasser qui est le deuxième leader aussi du mouvement.
Oui, on est les deux coordinateurs. Maintenant, on est menacés d'aller en prison.
Combien vous
risquez? Une année ferme chacun et 30 000 dirhams chacun. Le jugement, il a été passé. Maintenant, on est au niveau de
la cassation.
La cassation.
Oui. Vous avez été condamné en appel.
Oui. Un an de prison ferme et 30 000 dirhams chacun de payer et 10 000 dirhams d'amende pour une main.
Mais alors, du coup, vous avez toutes ces femmes qui vous ont rejoint dans le mouvement.
Les femmes, elles ont demandé une chose qu'elles m'ont surpris. Elles ont demandé qu'elles aussi, elles veulent aller au prison avec nous.
Elles ont dit...
Oui, ils ont signé.
Si jamais vous allez en prison, nous, on va avec vous.
Oui. Pour le Qal'a, on a 1500 personnes et pour le Rich, 2500 personnes. Et Ouarzazate, on n'a pas encore rassemblé la liste pour voir combien de personnes qui veulent aller en prison avec nous.
Jusque-là, ça fait combien, monsieur?
2000 personnes.
C'est pas mal.
Oui.
On va libérer les prisons.
Prochaine étape. Libérer les prisons. Rue Ounila. On est dans un quartier de Ouarzazate. Il y a des femmes essentiellement qui discutent autour de la place. Il fait chaud. Il est 18h, 6h du soir. Mais il doit faire encore 30 degrés. Vieille mobilette. Soit. Comment vous appelez?
Jamila.
Alors, vous êtes actrice?
Vous
êtes la star de Ouarzazate. Hein. Alors, on est tombé sur une actrice. Vous avez joué dans quel film, par exemple?
Diel Issa, Diel Moussa.
De Moïse. De Cléopâtre, la petite Cléopâtre. Ouais, elle était une belle Cléopâtre, elle rigole. Elle a joué le rôle de Cléopâtre.
Ah bon? Vous avez joué Cléopâtre?
Regarde, là, visage.
Yes.
Elle jouait une mendiante dans le film de Cléopâtre, comme figurante.
Fabi, ملي ما كيكونش فيلم كتقص مسكينه
داكشي علاش مشات القروض ni de rôle à jouer et eh ben c'est ce qui l'a amené à aller prendre des crédits. On nous a fait jouer que le rôle de mendiante.
En ce moment on joue ou pas à Ouarzazate?
Ah, كاين.
Oui.
Il
y a 4 films en ce moment. Lundi ça va commencer.
Ah, et vous jouez ou pas dans l'un des 4 films?
S'il nous appelle, oui. C'est le monsieur qui était dans la moto tout à l'heure, c'est lui qui vient et qui annonce que, tu sais, pour dire voilà, il y a tant de rôles.
Il y a des appels comme ça qui sont
venez participer, c'est un garçon du quartier. Il est payé par les gens du film. Il envoie faire de la prospection dans ce quartier particulièrement.
Dans ce quartier, d'accord.
Ouarzazate, ville du sud marocain aux portes du désert, est réputée pour l'extraordinaire variété de ses décors. Une richesse à la fois naturelle et culturelle que l'industrie cinématographique a découvert dans les années 50. Depuis, nombre de films connus ont été tournés à Ouarzazate, qui a fini par intégrer le cinéma dans sa vie quotidienne et dans son économie.
France 3, 1997.
C'est la diversité inouïe des paysages et la richesse des sites qui a conduit les cinéastes à investir peu à peu les décors naturels. C'est ici qu'ont été tournés Laurence d'Arabie, Le Joyau du Nil, Un thé au Sahara. Et c'est là que Martin Scorsese a récemment tourné dans des décors tibétains la vie du Dalai Lama.
Cette région, c'est vrai qu'elle connaît un essor économique très important grâce à ses productions étrangères. Et c'est pour cela que l'État marocain ne cesse de développer ses efforts.
Elle a joué le rôle de Cléopâtre.
Ah bon ?
Elle a joué Cléopâtre ?
Elle jouait une mendiante dans le film de Cléopâtre.
Bonjour.
Fouad Abdelmoumi, vous êtes consultant international après avoir cofondé et été directeur général de l'association Alamana pour la promotion des micro-entreprises. Et alors au Maroc, on vous surnomme Monsieur Microcrédit.
Bon, il faut dire que j'ai eu la chance d'être impliqué très tôt par rapport à l'expérience marocaine dans tout ce qui touche à la promotion de la petite et de la micro-entreprise et en particulier à la fondation des associations de microcrédit au Maroc. Donc, oui, je suis une des personnes de référence du secteur.
C'est ça. Alors là, j'ai des données sous les yeux. Je vois qu'en 2011, le portefeuille actif de Alamana, c'était 400 000 clients avec un encours de prêt de 3 milliards de dirhams.
Oui, ce qui fait à peu près 270 millions d'euros. Oui.
Est-ce que vous pourriez nous rappeler qu'est-ce que le microcrédit ?
Alors, le microcrédit, généralement, est l'octroi de petits montants de prêts à des personnes qui sont exclues des systèmes classiques de financement. C'est une prestation qui a la prétention de se faire de manière massive. On estime à des centaines et des centaines de millions de personnes qui sont exclues de ces systèmes classiques de financement dans le monde et qui ont la prétention de fonctionner sur une base économique.
Et donc là, du coup, ça fait que les taux d'intérêt, normalement, doivent être de combien ?
Alors, il n'y a pas de « doivent être ». On constate que, historiquement, c'est une activité extrêmement consommatrice de travail, de main-d'œuvre. Donc, évidemment, ça fait des montants qui, en taux, peuvent être absolument exorbitants par rapport au taux bancaire, mais qui, dans les faits, correspondent à une réalité économique qui est pertinente pour les concernés.
Parce qu'on parle des fois de taux d'intérêt variant entre 2-3% et allant jusqu'à 20, 40, voire 100, 200%. Voilà.
Très souvent, les gens jouent sur la présentation. Mais on a eu, pendant très longtemps, des taux qui pouvaient aller jusqu'à les 100%.
Alors, si on fait un bilan aujourd'hui de la microfinance...
Écoutez, pour moi, la microfinance s'est adressée au Maroc entre 1 et 2 millions de personnes. Sur cette population, il y a certainement quelques milliers de success stories qui ont conduit à lancer ou relancer des PME, des marchés à l'international, etc. C'est évidemment très loin de répondre aux problèmes et besoins des populations concernées. Mais en attendant les solutions des grands soirs, il faut bien aider les gens à trouver des solutions pragmatiques à leurs problèmes et à sa petite échelle, le microcrédit, à mon avis, y compris. Ce n'est pas la panacée. Ça ne doit pas servir de cache-sexe aux politiques ultralibérales internationales et au désengagement des États des pays du Sud. Le microcrédit ne peut pas avoir le statut de solution majeure.
Merci, au revoir.
Voilà. Le point de vue de Fouad Abdel Moumi sur le microcrédit dans son pays, le Maroc. Quelqu'un de nuancé, c'est pas la solution, mais enfin, c'est quand même un peu la solution. Soyons pragmatiques et ne rêvons plus au grand soir. Alors revenons à Ouarzazate, revenons au mécanisme du microcrédit, rencontre avec un agent de crédit.
Alors, on est avec quelqu'un dont on ne va pas donner le nom, qui veut rester anonyme et qui a travaillé pendant quelque temps, il va nous dire, dans une agence de microcrédit.
J'ai travaillé d'abord
comme agent de crédit, puis chef d'agence.
Mais
à la fin de ma carrière, j'ai dû démissionner.
Pour
des raisons personnelles. J'ai senti à un moment donné que je ne pouvais rien donner de plus. De 2008, j'ai travaillé jusqu'en 2011. Je faisais toutes les tâches des microcrédits, c'est-à-dire d'aller chercher des gens, des clients, de les inscrire, de leur donner l'argent. Il fallait qu'ils remplissent un contrat. Et ça, c'était obligatoire.
Alors, vous étiez payé comment? Vous aviez des primes au contrat signé?
Oui, يعني الصالير تيكون صالير دو باس تيكون تيكون 2500
كم سالير دو باس et les primes
Et vous personnellement combien vous pouviez gagner par mois?
4000 dirhams pour les primes en plus du salaire de 2500.
Ça fait 400 euros.
L'agent de crédit, يعني شي بعض المرات راه
l'agent de crédit se retrouve par moment vraiment il a pitié des gens, il voudrait les aider, mais en fait ces gens ne savent pas eux-mêmes
et ils se mettent dans des situations merdiques.
Ils s'embourbent même et toi-même.
Quelle est souffrance doubling?
Il y avait des doubles souffrances. Au sein de l'association,
elle te fait des objectifs
tellement impossibles, irréels, qu'il fallait atteindre. Et de l'autre côté, tu avais des problèmes avec les clients.
Par exemple, t'allais sur le
terrain chez les gens. Quand tu allais sur le terrain, tu vivais les agressions
de la part des clients.
Il y a des gens qui sortent avec un couteau, qui te menacent, qui te jettent des pierres.
Est-ce que pour vous, il faut que le microcrédit continue ou est-ce qu'il faut arrêter ça?
L'État en tant que tel qui compte sur les crédits pour résoudre ces problèmes,
c'est pas
l'idée qui est apparue chez Mohamed Younes initialement. Si elle a été vraiment appliquée, tout le monde aurait vécu. Si le taux d'intérêt n'était pas élevé, ils auraient pu travailler, le rembourser, mais pas prendre un taux d'intérêt élevé pour consommer.
كان في ميكروكريدي.
Moi personnellement, j'y travaille. J'y ai travaillé. Et de ce jour, je ne prends pas de crédit. Je ne veux pas pousser ma femme ou ma famille dans des problèmes de crédit. Le microcrédit comme idée, elle était bonne. On peut la défendre, mais les gens, les organismes financiers des microcrédits devraient baisser les taux d'intérêt et ne pas faire des agents de crédit des victimes. Quelque chose de symbolique, le taux d'intérêt. Vraiment symbolique. Pour qu'ils puissent payer l'assurance, que les traites ne soient pas élevées. Voilà, c'est l'essentiel. Et nous, dans notre expérience, quand on voit qu'il y a un crédit, un client qui ne peut pas payer, il faut qu'on se solidarise avec lui. On ne peut pas lui dire, voilà, tu vas aller en prison si tu ne rembourses pas. Crédit non payé, tu ne seras pas lié, tu ne peux pas payer. Crédit non payé, tu ne seras pas lié à consommateur.
Ça c'est peine.
Crédit, non payé, tu nous seras valide. Crédit, non payé, tu nous seras valide à bon matin.
Y'a pas de pardon. Ça c'est peine.
On rentre? Salam.
Salam.
On enlève les chaussures. Voilà, on arrive chez Aïcha.
Aïcha.
Donc là, nous sommes chez
Aïcha. Et les enfants qui rentrent, qui déposent des bassines. Avec de l'eau. C'est l'eau, chocolat. Et on rentre. Là, il y a, oh d'accord, un salon. Une dizaine de femmes qui sont là. Salam.
Salam.
C'est le gynécée ici, hein. Il y a presque que des femmes, non, quelques hommes quand même qui ont réussi à s'installer. Comment vous vous appelez?
Moulaïd, Nabès, Bekhir, Merhaba Bikoum, Choukran, Arkoun, Choukroukoum.
Je te remercie beaucoup, beaucoup.
Vous leur devez combien aux instituts de microcrédit?
Je dois rembourser 50 000 dirhams.
5 000 euros. Est-ce qu'il y avait, avant l'arrivée du microcrédit, la tontine, ce qu'on appelle la tontine, c'est-à-dire une mutualisation, une mise en commun des ressources, de l'argent?
C'est ce qu'on faisait avant le microcrédit, on l'appelait DART, c'est-à-dire qu'elle tourne. Et maintenant, on y est revenu. Depuis qu'on est enfoncé dans le microcrédit, on s'est remis à refaire DART, la tontine, ça veut dire le tour de rôle.
علاش تنسميوها دار تدور تنديروها بحال سميتو بحال تنديرو القرعه واللي جات فيها تتدور.
C'est à tour de rôle, on tire au sort et celle qui veut de l'argent, on donne.
ما فيها لا لي زانتيريس ما فيها حتى حاجه تدور واللي عنده شي مشكل تنعطيوها ليه ماشي بحال.
Et on demande ni crédit ni rien. Si une femme a un problème, chacune met
un peu d'argent
et cet argent que la femme a pris le remet pour la suivante et ainsi de suite, mais on ne prend ni taux d'intérêt ni rien.
Et là vous êtes revenu à ce système là.
Maintenant on y est revenu, oui c'est ce qu'on fait, même au sein de la famille on fait. On donne 500 dirhams dans la famille par personne, chacun la donne et on n'a plus de crédit. Si on avait fait ça à la place du microcrédit, on serait tous très riches.
La banque. La banque cabinet, là.
Une vraie banque entre nous. Et l'hôtel d'Abaad, Femina.
T'as fait le foot.
Et voilà. Et ce n'est qu'une fois qu'ils nous ont égorgés, ils nous ont mis le couteau sur la gorge, Amana, Damana, tous les microcrédits, qu'enfin on a compris.
Qu'est-ce que tu dis, Swad?
J'ai dit, le bébé, il crie. Et heureusement qu'elle lui donne la tétée, au moins elle ne paye pas le lait à crédit.
D'abord.
Voilà, retour à la tontine, à la bonne vieille tontine. Ce système de solidarité qui se pratique encore partout dans le monde, dans bien des endroits dans le monde, notamment en Afrique noire, mais aussi en France. Les Africains, très couramment, Maliens, Camerounais, tous, Sénégalais, pratiquent la tontine. Chacun met de l'argent chaque mois, et puis on tire au sort régulièrement celui qui aura le droit de dire, eh bien, écoutez-moi, ce mois-ci, je veux la totalité de la tontine pour telle ou telle raison, un mariage, un investissement, l'ouverture d'un commerce, etc. C'est une très vieille pratique, on l'avait vu fonctionner au Pays de Galles, ça se pratiquait autrefois en France, partout. C'est sûr que dans l'histoire de l'Auvergne ou de l'Aveyron, on doit trouver des histoires de tontines. On avait vu fonctionner cela, si vous vous souvenez bien, au Japon, à Okinawa. On a fait un sujet sur les tontines japonaises. Donc voilà, à Ouarzazate, et ben on en revient à ça, au système de la tontine, qui non plus n'est pas une solution, qui n'est pas la panacée, mais qui est une tradition, et puis qui a le mérite au moins de faire de la solidarité, des réunions, des fêtes entre soi, et de lutter contre l'individualisme. C'est ça, ce mérite d'être une expression de la solidarité.
Amina, là, c'est toutes des femmes qui sont des femmes qui luttent contre le microcrédit, qui en ont été victimes et qui luttent maintenant. Et là, ce que vous faites, vous êtes en train de débattre, c'est ça ?
On est en train de débattre et on parle à propos d'une idée, à créer une coopérative et un projet de bio, de légumes, de conserve de légumes bio, des herbes, des épices marocains, des épices à base de légumes comme l'oignon séché. Et on est en train de partager, de discuter.
Les gâteaux, le thé. Oui. Alors vous voudriez cultiver et vendre ensuite ?
Oui, cultiver, conserver et vendre. Il y a des femmes qui cuisinent dans des hôtels. On va s'entraider, la femme de la compagnie, la femme de Ouarzazate, pour donner un travail meilleur. À Taznart, on a des femmes qui ont le safran et le tapis. Ici, on a des légumes. Il y a des femmes de la rose. Il y a les roses. On va changer les matières entre nous. On va faire une chose collective qu'on peut faire, même utiliser dans l'export. Tout le monde va participer. Le mari va travailler, la femme, on va trouver un champ de travail ou quoi.
Et dans le bio.
Et dans le bio aussi.
Vous êtes toutes d'accord pour créer une coopérative biologique ?
D'accord. Tout de suite. Il propose Amina, elle fera la comptabilité. Amina. Non, je peux faire directrice de projet.
Aïcha, vous feriez quoi, vous ?
Je dis le thé. Aïcha, je ne t'ai pas dit que je suis un peu plus de la chaloua. Je ne sais pas. La chaloua
est faire tout ce qui concerne la cuisine.
Et qui ferait la culture ? Agriculteur ?
Des hommes.
Et du coup, d'après vous, Amina, ça pourrait être lancé quand, ce projet ?
Après le procès, la cassation.
Dans un mois ?
Dans un mois, oui.
Et alors, si jamais vous êtes condamné ?
On va porter nos couvertures à l'entrée de la prison et on va faire notre sitting. D'autres veulent rentrer dedans. Il y en a qui vont rester dehors, d'autres vont rentrer dedans.
Microcrédit, comment se faire des perles avec la sueur des pauvres. C'était le second volet du reportage d'Anaël Verzo. Merci à Swad Genoun, Amina Morad, Nasser Smaini, Omelette et à toutes les femmes en lutte contre le microcrédit. Merci aussi à Fouad Abdelmouni, à la Jean du Crédit, qui a souhaité rester anonyme. Merci à Attac Maroc et au CADTM, le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, qui qui ont rejoint la caravane qui a parcouru la région du Ouarzazate du 24 au 28 avril dernier à la rencontre des femmes en lutte contre le microcrédit. Pour avoir plus d'informations sur cette caravane, vous pouvez visiter le site du CADTM, cadtm.org. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter sur là-bas.org, là-bas.org, et puis donner votre point de vue sur la page Facebook de Là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, David Federman et Enzo Labori. L'émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Aderer, préparée avec Jonathan Duong. Stéphanie Fromentin attend quant à elle vos messages sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h sur France Inter. Tout de suite, vous retrouvez Hervé Pochon avec son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Qu'est-ce qui se passe ici?
Il y a une réunion du bonheur.
Ah, alors ça c'est un sujet qui m'intéresse, le bonheur.
Bah, vous montez à la salle des fêtes au deuxième étage.
C'est normal que le bonheur ça se passe dans la salle des fêtes. Hein.
Oui.
Et vous y allez vous aussi ou pas?
Ah non, moi je suis la gardienne donc j'y vais pas. Moi je vais faire ma ronde.
Ah.
Donc j'y vais pas moi.
Ça vous aurait intéressé?
Oui, mais nous, on n'a pas le droit. Les gardiens, il faut qu'ils restent en bas. Ou... Là, j'ai un surveillant, donc il est en bas.
Ah oui. Mais pour vous, qu'est-ce que c'est le bonheur?
Bah, le bonheur, c'est d'avoir du travail, c'est d'avoir un homme, c'est d'avoir beaucoup de choses.
Et donc, vous avez tout ça?
Moi, j'ai tout ça.
Bon, bah, c'est bon, vous n'avez pas besoin d'aller à la réunion du bonheur, alors vous l'avez, le bonheur?
Non, moi, je l'ai, le bonheur.
Bon, bah, écoutez, alors, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Je peux avoir votre prénom?
Daniel.
Merci Daniel et bonjour à tous et bienvenue à la mairie du 4e où il y a une réunion sur le bonheur.
Voilà.
Et vous mademoiselle, qu'est-ce que vous faites?
Eh bien moi je suis venue à cette soirée sur le bonheur parce que je ne connaissais pas la fabrique Spinoza et que ça m'a l'air d'être une bonne initiative, notamment au niveau de la réduction du malheur au travail.
Vous êtes heureuse au travail?
Ouais, je suis assez heureuse au travail.
Et c'est quoi votre travail?
Je suis consultante et en ce moment, je fais une étude sur la réduction de la souffrance au travail.
Ah oui, d'accord. Donc, vous savez de quoi vous parlez, vous?
Non, je commence juste l'étude, mais en fait, je suis heureuse d'avoir le droit de la faire, en fait, d'être payée pour ça. Bon. Et vous, vous êtes heureux?
Ah oui, moi, très heureux. Je suis très heureux d'aller rencontrer les autres, et alors, surtout ceux qui sont heureux, qui vont m'expliquer pourquoi ils sont heureux et tout ça. Je trouve ça très rigolo.
Et ça vous gêne pas qu'on donne pas de la voix à des gens qui sont justement malheureux?
Et ce que j'espère, c'est qu'il y a des gens malheureux qui vont venir là pour devenir heureux.
À mon avis, il y en a plein. Parce que si on se pose la question du bonheur, c'est que quelque part, on n'est pas complètement heureux. Mais pas complètement malheureux non plus.
Voilà. Mais alors vous fumez votre cigarette dehors?
Ouais.
Je vois votre prénom?
Cathy.
Bon, ben, bonne cigarette, Cathy. Vous partez, madame?
Non.
Ah bon? C'est ici, la réunion du bonheur?
C'est là-bas.
Dites-moi, un truc que vous avez appris ce soir?
Que le bonheur est intérieur, mais que ça peut être une quête qui nous aide à progresser, que parfois il faut être dans cette quête pour prendre conscience qu'il est à l'intérieur. Mais allez voir!
J'y vais, merci. Voilà. Tous ces gens qui me disent que le bonheur est à l'intérieur, je suis actuellement dans le couloir qui mène à une salle où il y a pas mal de monde, debout. Une belle salle de l'hôtel de ville. Pardon monsieur, qu'est-ce qui se passe ici?
Ici, on est dans la petite pause, le moment où les gens sont simplement en train d'échanger. Là, c'est la partie simple du bonheur citoyen, la nourriture, bien vivre. Et juste après, on va avoir une petite réflexion sur comment changer la société.
Pourquoi vous avez eu l'idée d'organiser ça, une soirée sur le bonheur?
Ben, nous, on s'est dit, c'est la journée internationale du bonheur. L'ONU nous a fait ce cadeau de la déclarer comme ça, planétairement, après 168 pays qui l'ont voté ensemble à l'ONU. Et on s'est dit, on prend cette journée et on va l'habiter. Et on va voir qu'est-ce que nous, 150 citoyens, on peut avoir comme réflexion, on peut partager comme moments conviviaux et peut-être produire deux ou trois idées à même de, comment dire, d'éveiller, d'éclairer nos hommes, nos femmes politiques.
Donnez-moi déjà une idée.
Alors, une idée, ça serait, par exemple, de prendre le bien-être au travail et de se dire, avec ça, on va relancer notre économie et ensuite se dire qu'on peut s'épanouir dans notre monde professionnel. Une autre idée, c'est « et si on avait un peu d'altruisme dans le système éducatif ?» C'est vrai ça. Et si on apprenait à coopérer ? Si on apprenait dès le plus jeune âge à faire attention à notre petit camarade de classe, qu'est-ce que ça donnerait ? Peut-être qu'on apprendrait mieux ?
Mais c'est du catéchisme ça, non ?
Du catéchisme ? Non, alors peut-être pas apprendre. C'est plutôt faire expérimenter, faire découvrir ce que c'est que l'altruisme.
Vous êtes altruiste ou vous tirez profit d'une soirée comme ça que vous organisez pour montrer le chemin du bonheur ?
Je pense que notre envie profonde, c'est de prendre ce sujet du bonheur citoyen et de voir si on pourrait en parler sans décomplexion. C'est-à-dire que quand je vous regarde, j'ai pas une inquiétude ou une moue d'excuse parce que je suis en train de parler du bonheur. C'est que ça soit un sujet assumé. Que tout le monde ose parler du bonheur citoyen sans faire rire les politiques, sans faire détourner du regard les dirigeants économiques.
Mais vous ne croyez pas que d'en parler, on passe à côté, qu'en fait le bonheur, ça se vit. On ne peut pas en parler.
Ben, justement, Rémi Pavin, historien du bonheur, partageait avec nous tout à l'heure que plus il y a un débat sur le bonheur dans un pays, et plus les gens sont à même de le vivre. Parce que c'est quelque chose qui commence à germer dans leur esprit et à leur faire examiner le monde un petit peu différemment.
Et si on veut en savoir plus, et ben il y a la journée internationale du bonheur.org.
Est-ce que vous êtes avec moi ?
Oui !
Oui ! Ok. Je vous propose de prendre 20 minutes pour réfléchir tout simplement, nous tous, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans la société pour favoriser le bonheur citoyen ? Et pour ça, parce que le sujet est un peu vaste quand même, on a des cartes. Et à chacune des tables, on a des cartes qu'on peut tirer pour nous inspirer un peu, avec plein de sujets au dos.
Je peux avoir votre prénom ?
Alexandre. Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
Professionnel, besoin d'une idée lumineuse pour bloquer le prix de votre électricité ? GDS Suez Énergie France vous garantit un prix de l'électricité sans augmentation pendant 2 ans. En plus, une remise de 5% sur le prix du kilowattheure. Appelez le 3050. Appel gratuit depuis un fixe, voire conditions sur notre site. GDF Suez Énergie France, être utile aux hommes. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Bureau d'enregistrement des rêves, bonjour.
Bonjour, je voudrais déposer un rêve Euromillions.
Je vous écoute.
Alors, c'est une machine pour traduire le langage des baleines. Ce serait basé sur le
fait... Baleine à bosse ou cachalot ?
Baleine à les deux, mettez-moi les deux. Comme ça, c'est fait.
Je vous passe le service adéquat. Patientez.
Euromillion My Million. Venez avec vos rêves. Ce mardi, jackpot Euromillion de près de 75 millions d'euros. À partager au rang 1, voire règlement.
FDJ.
Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Les informations, Pierrick Bonneau.
Arnaud Montebourg n'aime pas du tout les cachotteries et il le fait savoir. Le ministre de l'économie et du redressement productif accuse le PDG d'Alstom de lui avoir dissimulé ses négociations avec General Electric. Négociations en vue du rachat de la branche énergie du groupe français. Dans ce dossier, le groupe américain a un concurrent, l'allemand Siemens, qui doit déposer aujourd'hui son offre de rachat. Selon Bercy, Alstom devrait donner plus de temps, 2 à 3 semaines, à l'allemand Siemens pour finaliser sa proposition. Le vote est prévu dans un peu plus de 2 heures. Le Premier ministre Manuel Valls se joue gros ce soir. Même si l'avis du Parlement n'est que consultatif, les députés vont devoir dire s'ils soutiennent ou pas son plan d'économie de 50 milliards d'euros. Après 15 jours de fronde de plusieurs dizaines de députés socialistes, le plan sera sans doute adopté. Mais avec quelle majorité ? Des élus socialistes persistent à dire qu'ils vont s'abstenir, de même que la majorité des députés écologistes et le groupe centriste de l'UDI. Dans ce contexte politique déjà très tendu, le MEDEF veut aller encore plus loin dans l'effort demandé aux Français. Dans une interview à l'hebdomadaire L'Usine Nouvelle, Pierre Gattaz, le patron des patrons, considère nécessaire une modération salariale pendant 2 ou 3 ans en France, sans quoi les efforts faits sur les baisses de charges du pacte de responsabilité ne serviront à rien, selon lui. Et le président du MEDEF d'ajouter que les patrons, eux aussi, devraient être concernés par cette modération. Autrement dit, fini les hausses de salaire pour tout le monde. Air France dénonce une grève d'une ampleur inhabituelle. La compagnie aérienne estime même que l'appel des syndicats de pilotes à débrayer quelques heures par jour du 3 au 30 mai risque de mettre en péril son redressement. D'importants retards sont à prévoir et Air France prévient que les vols menacés par les grévistes seront annulée. Le SNPL dénonce la loi sur les services garantis dans les transports qui oblige les grévistes à se déclarer 48 heures à l'avance. Avant une grève, il estime que cela permet aux compagnies d'aller chercher des pilotes ailleurs, notamment à l'étranger. Washington qualifie de terrorisme les violences et les enlèvements dans l'est de l'Ukraine. 7 observateurs de l'OSCE et leurs accompagnateurs sont toujours détenus ce soir à Donetsk par les séparatistes pro-russes, accusés d'être des espions de l'OTAN. Ces dernières heures, les pro-russes ont également pris d'assaut un bâtiment de l'administration régionale à Lugansk. Quelques centaines de manifestants ont pénétré dans l'immeuble qui n'était pas protégé par la police. Par ailleurs, l'armée française a déployé aujourd'hui ses appareils en Pologne, premier jour de la mission Police du ciel. Alors que la tension est à son comble, vous l'avez compris, dans l'est de l'Ukraine, annoncé fin mars par le ministre français de la Défense, le déploiement de ces 4 rafales dans le nord de la Pologne vient renforcer la présence occidentale dans les pays de l'est de l'Europe. Mahmoud Abbas se dit prêt à continuer les négociations avec Israël si elles portent sur le tracé des frontières au dernier jour des 9 mois impartis au pourparlers de paix avec l'État hébreu. Le gel de la colonisation reste une condition sine qua non selon Abbas, alors que l'ONG La Paix Maintenant nous dit que la construction de 14 000 logements aurait été approuvée ces 9 derniers mois dans les colonies israéliennes.
France Inter, la nouvelle application pour mobile et tablette tactile.
Tout l'univers de votre radio dans votre poche.
France Inter en direct,
où vous voulez,
quand vous le souhaitez.
La réécoute de toutes les émissions et l'accès aux podcasts.
Les dernières actualités de la rédaction en temps réel.
Les vidéos des invités politiques,
des humoristes,
les sessions live.
En téléchargeant dès maintenant sur votre mobile
la nouvelle application France Inter. Tous les dimanches.
Mais oui, mais c'est trop facile, ça.
À 20h10.
C'est trop propre.
Le masque et la plume.
Je t'ai pas donné la parole, mais tu la prends quand même.
Jérôme Garcin.
Allez, avançons, on a plein de livres à évoquer ce soir.
Littérature.
C'est tous les clichés, tous les rouages habituels.
Cinéma.
Il y a une scène finale.
Théâtre.
Extraordinaire.
Ah oui, on peut pas raconter
la
projection du film.
Pour assister à l'enregistrement du prochain masque et la plume.
C'est grandiose, tu respires.
Rendez-vous demain dès 19h devant la porte B de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
France Inter.
La voix est libre.
Bonne fin d'après-midi en musique sur France Inter, c'est Carrefour de l'Odéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Pierrick Bonneau, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. J'ai le très grand plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-Pierre Lepavec, qui est directeur de la musique à Radio France. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Alors vous venez avec plein de bonnes nouvelles. Ça vraiment, je vois un homme heureux parce qu'il y a tant de choses, de propositions extraordinaires. D'abord, la maison va rouvrir, elle n'a jamais fermé totalement. Mais enfin quand même, il y a eu des travaux, ça continue toujours. Mais à la rentrée, on va avoir un auditorium absolument extraordinaire.
Oui, c'est une grande nouvelle évidemment pour les musiciens qui vont pouvoir revenir dans des conditions de travail plus stables, parce que là, ils étaient dans une espèce de nomadisme pour les répétitions et pour les concerts. Et puis, c'est pas seulement les musiciens qui reviennent, c'est le public qui doit réinvestir cette maison qui n'a pas fonctionné depuis maintenant 3-4 ans. Donc c'est vraiment une période charnière de notre histoire, à la fois d'avoir les orchestres, le chœur, la maîtrise ici, de pouvoir faire des programmes nouveaux, de pouvoir faire des expérimentations, de pouvoir faire de la pédagogie. Enfin, il y a toute une effervescence qui va être... on est chez nous, donc on est chez nous, ça veut dire on a les salles, on a les studios... Oui. Et en plus, ici, on fabrique. C'est la différence peut-être avec d'autres salles de Paris qui accueillent. Nous, voilà, on fabrique tout.
Et le public, évidemment, nos chers amis, tout le monde est bienvenu, encore plus qu'avant, je dirais, parce que la maison, qui était autrefois la maison ronde, fameuse, où on se perdait dans les couloirs, dans les traverses, maintenant, on va pouvoir justement aller à travers. Il y a une autre orientation, il y a une sorte de clairière, tout ça a été vraiment élargi, des propositions nouvelles. Mais écoutez, la campagne de publicité pour le nouvel auditorium a frappé beaucoup de nos auditeurs parce qu'on nous a demandé très souvent, je le dis vraiment, ce que c'est, qu'est-ce que c'est que cette musique-là ? Le début de ce passage, c'est tiré de l'adagio de la 5e symphonie d'Anton Bruckner, ici interprété par le Chicago Symphony Orchestra, dirigé par Georg Scholti, ou George, comme on dit dans son pays d'origine, la Hongrie. Et voilà, cette belle campagne a frappé les oreilles. Et vous me dites, vous m'avez dit hors micro, Jean-Pierre Lepavec, que justement, la demande d'abonnement a déjà démarré bien aussi.
Oui, oui, elle a fleuri, parce qu'on voulait une campagne avec l'agence avec laquelle on a travaillé, qui interroge un peu, non pas qu'il fasse peur, mais en tout cas qui motive et qui se dise mais qu'est-ce que c'est, ça y est, ça ouvre. Et ça a bien fonctionné, à la fois la campagne l'image et puis surtout la campagne sur les antennes, qui était formidable avec cette musique de Bruckner et puis poignante. Avec cette idée, la chair de poule, c'est-à-dire le son est tellement formidable que vous aurez la chair de poule. Donc c'était
très réussi.
Et ça a bien marché, oui, ça marche bien. Les gens demandent des brochures, ils commencent à louer les places de manière plus forte que les années précédentes. Donc on est très content.
Bah oui, il faut voir cet auditorium avec un orgue, une merveille aussi, un orgue absolument superbe.
Ce sera un très beau lieu du point de vue du confort, de l'orientation justement. On parlait de ça tout à l'heure, des halls qui seront équipés de l'acoustique. Bien évidemment, de l'enregistrement, de toutes les techniques de son de pointe. Ça va être vraiment un bel endroit.
Alors la rentrée, je prends le 18 septembre, ce sera au Théâtre des Champs-Élysées, parce qu'il y a quand même évidemment quelques concerts à l'extérieur.
Oui, mais on ouvre l'auditorium que deux mois plus tard.
Oui, c'est ça, bien sûr, au mois de novembre. Hein, oui. On croise les doigts, mais on a fixé une date.
Bon,
ça va aller, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas,